Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs de Radio Présence, c'est un livre d'un genre nouveau que je vous présente aujourd'hui. Paru aux éditions d'Angle, qui sont installées à Escalquins, donc tout près de Toulouse, c'est un livre d'actualité dont je vais vous parler, pas d'un livre politique, mais des constats. Le livre dont je vais vous parler parle des ondes électromagnétiques, OEM, invisibles et pourtant omniprésentes, dans lequel nous baignons, nous qui vivons notre quotidien entre Internet et avec un ou deux portables dans nos poches ou dans nos sacs à main ou nos sacs à dos. Le titre de ce livre est simple à retenir, OEM. Il est écrit par Christian Borde et Nelly Rousselin. Christian Borde, bonjour. Vous nous faites le plaisir de venir à Radio Présence. Malheureusement, vous n'avez pu être accompagné par Nelly Rousselin. Vous êtes un Toulousain qui s'est installé dans les Hautes-Pyrénées et vous êtes un spécialiste de l'hypersensibilité aux ondes. En Midi-Pyrénées et en Espagne, on vous connaît car vous êtes un des premiers à avoir parlé des dangers que représentent tous ces appareils que nous côtoyons tous les jours, comme le portable, le Linky, le toaster, les plaques à induction, les fours à micro-ondes, tous ces appareils que nous côtoyons. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi ils sont dangereux pour nous. J'ajoute encore quelques petites lignes pour que les auditeurs de Radio Présence vous connaissent. Vous êtes aussi ostéopathe, vous proposez des consultations, vous proposez des cours, surtout en Espagne, à Madrid, à Barcelone, dans la province de l'Aragon. Vous faites des bilans de santé qui permettent, grâce à un appareil sophistiqué qui est fait par un Russe avec lequel vous travaillez depuis 20 ans, de voir quelles sont les raisons des maladies qui touchent certains de nos compatriotes. Pionnier dans l'imagerie électrophototonique, vous allez pouvoir nous parler de ce livre qui est extrêmement intéressant et qu'il faudrait que tout le monde possède à la maison pour éviter ces maladies dues aux ondes électromagnétiques.
Je vous remercie infiniment, Madame de Bengui, de m'accueillir au sein de Radio Présence pour cette interview. Ça a été un grand plaisir d'accepter et vous dire oui pour ma venue. Bien sûr, je suis venu spécialement d'Espagne à cette occasion et c'est vraiment une joie parce que ce livre nous porte à cœur autant à Nelly Rousselin qu'à moi-même puisque nous l'avons écrit surtout dans un désir d'information, de prévention auprès d'un large public et nous allons le voir de choses qui sont selon nous capitales. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous concernés par ce sujet-là. Je ne dirais pas par ce problème, mais par ce sujet-là, puisque ce n'est pas un problème. La technologie, aujourd'hui, a fortement fait ses preuves, a avancé, nous met à disposition des outils extraordinaires, comme par exemple dans ce magnifique studio où nous avons tout pour que tout fonctionne parfaitement. Nos téléphones portables nous interconnectent à travers le monde, quel que soit le pays ou le continent, les satellites et tout ce qui suit. Et donc, que faire avec tout ça ? Ne pas s'en priver, puisque c'est à disposition. Donc, c'est très pratique, ça nous change la vie sur beaucoup de plans. Simplement, le message que nous avons à passer avec Nelly Rousselin, c'est de dire aux personnes, profitez du progrès, c'est essentiel, le progrès est là pour ça, mais préservez-vous des côtés, je dirais, plus problématiques de ce progrès, puisque c'est comme une pièce d'un euro, elle a un côté pile, un côté face, c'est un peu ce que les Chinois appellent avec le yin et le yang, il y a toujours une double polarité en toute chose, et les ondes électromagnétiques, comme nous le verrons, ont leur revers. Donc ce livre était vraiment destiné, quand nous avons pensé à l'écrire, à mettre en garde les gens et surtout les jeunes générations qui sont nées avec, puisque nos enfants, nos petits-enfants sont arrivés avec ces ondes omniprésentes. Déjà, la maman qui se promène avec son bébé dans le ventre, la future maman, et qui n'a encore qu'un fœtus dans le liquide plasmatique, il est déjà irradié par son téléphone portable qui est dans le sac à main pendant qu'elle se promène en ville et qu'elle fait ses courses. Donc, c'est vous dire que quand on parle d'omniprésence, on est vraiment dans quelque chose qui est incontournable aujourd'hui. Donc maintenant, la conduite à tenir, nous allons en parler tous ensemble.
Voilà. En fait, nous allons d'abord expliquer à nos amis auditeurs exactement ce que sont les ondes électromagnétiques. Parce que si ces ondes sont invisibles, elles sont quand même partout. Nous ne nous en rendons pas compte, mais dans notre quotidien, nous sommes envahis d'ondes électromagnétiques et il y a eu une augmentation de ces ondes extraordinaire, exponentielle depuis quelques années. Et nous savons, à travers la lecture de ce livre et à travers ce qu'on peut lire dans la presse, que ces ondes, comme la Wi-Fi par exemple, traverse les murs. Donc si elle traverse les murs, elle traverse aussi les corps. Et donc c'est pour ça peut-être qu'elle serait à l'origine de certaines maladies. Je voudrais que vous nous expliquiez, Christian Borde, exactement ce que sont ces ondes électromagnétiques. Parce que c'est un mot un peu savant quand même pour le grand public. Dites-nous, pour nous, pour que nous sachions exactement quand et où nous craignons de rencontrer ces ondes.
Alors déjà, pour rassurer les personnes et les scientifiques qui peuvent nous écouter, c'est que onde électromagnétique ne veut pas dire obligatoirement nuisance. Nous allons prendre une onde électromagnétique que tout le monde connaît depuis sa naissance, c'est celle émanant, enfin, ou du moins venant du Soleil. Ce sont des ondes électromagnétiques. La radio qui émet radioprésence quand vous émettez dans Toulouse et plus encore, ce sont des ondes électromagnétiques. La télévision fonctionne à base d'ondes électromagnétiques. Les radars, les satellites également, les antennes relais également, mais c'est là où je demande aux gens de bien réfléchir. Si vous voulez, il y a les ondes électromagnétiques d'origine naturelle, comme par exemple le champ magnétique terrestre, qui est là depuis la nuit des temps, comme par exemple les ondes électromagnétiques émises par le soleil. Et donc, bien sûr, à part de se mettre pendant 5 heures d'affilée, quand le soleil est au zénith, nu au soleil, on sait qu'il y a des risques pour la peau et la cancérisation. Mais le soleil pris raisonnablement est un trésor de bienfaits. Donc, onde électromagnétique, je le répète, ne veut pas dire nuisance systématiquement. Par contre, là où nous rencontrons un réel problème, c'est que les ondes électromagnétiques, quand elles sont d'origine artificielle, et ça c'est important à le dire, donc les OEMA, on pourrait dire, ondes électromagnétiques artificielles, eh bien celles-ci, selon leur fréquence, selon leur longueur d'onde et leur portée, vont entraîner plus ou moins de troubles.
Oui, alors là déjà je trouve que c'est une distinction très importante. Donc les ondes électromagnétiques naturelles comme le soleil, c'est absolument formidable, nous le savons, et il ne faut pas en avoir peur malgré ce qu'on entend de temps en temps. Et après il y a les ondes électriques. Électromagnétiques artificielles qui, elles, sont dangereuses. Et celles-là, c'est de celles-là dont il faut nous méfier. Et là, il faut ouvrir nos oreilles parce que vraiment, nous en sommes inondés depuis peu de temps. Je vous redonne la parole, Christian Borde.
Bien. Alors, ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui, durant ce bref interview, c'est justement l'effet de ces ondes sur le vivant. Comment dépister précocement les gens qui seraient plus sensibles que d'autres, ce qu'on appelle les EHS, donc les électro-hypersensibles. Et nous verrons qu'il y en a beaucoup.
Ça, c'est vous et moi, chers auditeurs. Les électro-hypersensibles, ça peut être vous, votre voisin, votre mère, votre frère. Ça peut toucher n'importe qui. Alors, il faut bien écouter. Donc, les électro-hypersensibles, c'est une maladie qui est en train d'arriver avec ces ondes électromagnétiques qui nous envahissent. Je vous redonne la parole, Christian Borde.
Tout à fait. Et donc, pour preuve, nous avions co-écrit avec le docteur Gérard Dieuzet il y a 6 ans de cela, toujours aux éditions d'Angle, déjà un premier ouvrage qui s'intitulait « Les maladies des ondes », donc, qui avait été préfacé et postfacé par 2 éminents professeurs de cancérologie. Donc, c'est dire que si ces cancérologues ont mis leurs pattes sur ce livre, il est certain qu'il faut un lien avec certaines pathologies que nous évoquerons plus tard.
Ah, mais la puce à l'oreille quand même.
Oui, parce que 2 cancérologues, professeurs d'université, ne vont pas mettre une introduction et une conclusion à un livre s'ils ne font pas le lien avec certains risques avérés. De toute façon, l'ANSES a déclaré ça comme potentiellement cancérigène, ça, c'est complètement avéré. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des risques et nous verrons lesquels. Et bien sûr, le but de cette interview n'est surtout pas d'affoler la population.
Non,
vous en
surtout
doutez.
Pas. Surtout pas. Voilà. Je vous rassure, voilà. Chers auditeurs.
Voilà. Ce n'est pas du tout l'idée donc de Madame de Benguy quand elle m'a invité. C'est vraiment d'informer. Et comme nous le disons souvent, un homme averti en vaut deux et une femme avertie en vaut quatre. Parce que les mamans, souvent, quand elles ont engendré la vie avec des enfants et des petits-enfants, elles sont plus précautionneuses de la santé que les messieurs. C'est une observation que nous avons faite au fil des années. Juste vous dire en deux mots, que ferions-nous sans ce progrès qui nous entoure? Ben, plus grand-chose. La preuve, regardez, nous nous sommes contactés, vous et moi, par le téléphone portable. On peut communiquer par Zoom ou par des messageries de ce style sur Internet. On a des micros, des satellites. Donc, je vous dis, on ne peut pas se couper de ça. C'est complètement impossible aujourd'hui. Par contre, le problème de ces nuisances dont nous allons parler, c'est qu'elles sont les plus insidieuses. Pour quelles raisons? Parce que tout d'abord, ça ne se voit pas et ça ne se sent pas.
Oui, retenez bien ce mot. Nuisance invisible mais présente. Ça, c'est très important. N'oubliez pas que la Wi-Fi passe à travers un mur en béton et donc elle peut traverser votre corps. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir la puce à l'oreille au sujet de ces nuisances, des ondes électromagnétiques.
Puisque vous parlez de Wi-Fi, je voudrais juste reprendre une notion que tous les auditeurs, je pense, ont en tête. C'est que nous avons vu, nous en tout cas, l'arrivée des fours micro-ondes sur le marché de l'électroménager. Vous vous souvenez de ces époques où nous étions encore jeunes et on voyait les premiers fours micro-ondes qui étaient en somme des sortes de radars de l'armée recyclés, qui émettaient des très hautes fréquences. Et ces fours micro-ondes, il était marqué, il était spécifié partout qu'ils avaient certains revers, comme par exemple s'il y avait une fuite au niveau de la... du boîtier, de la carlingue, à ce moment-là, ça pouvait être très dangereux.
Très nocif.
Il y avait même des détecteurs pour voir s'il n'y avait pas de fuite. On disait aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas s'en approcher. Bon. Tout ça, on en était conscient. Et on mettait en garde. Eh bien, aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qu'est la box que nous avons à la maison qui émet du Wi-Fi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que du micro-ondes, avec la différence que nos murs, c'est comme le pourtour du four, c'est comme les parois du four, et que l'émetteur, c'est notre box. Et nous sommes, excusez-moi l'image, le poulet ou la viande à cuire à l'intérieur.
C'est terrible ce que vous êtes en train de dire.
Eh bien oui, mais je ne peux pas l'imager plus que ça. Et je vais vous dire une chose, un poulet, vous avez deux manières de le cuire. Soit vous mettez 900 watts pendant une heure, soit vous mettez 30 watts pendant 30 heures. Mais vous arriverez au même niveau de cuisson. Alors, excusez-moi, c'est un peu brutal, mais à petit feu, dans nos maisons, nous amenuisons notre santé et nous verrons comment on peut s'apercevoir de cela, puisque vous avez des gens qui sont sans arrêt fatigués, qui se lèvent aussi fatigués qu'ils se couchent, qui ont des problèmes durant les nuits parce qu'ils n'ont jamais des nuits en continu, ils ont des nuits très hachées, très fractionnées. Eh bien ça, il faut se poser la question sur la présence éventuellement du Wi-Fi ou du Bluetooth dans la proximité de leur chambre. Mais nous en reparlerons plus tard. Ensuite, je voudrais dire quand même une chose, et c'est pour cela qu'avec Nelly Rousselin, nous avons écrit cet ouvrage, c'est que la population est globalement désinformée. Pourquoi? Ben parce qu'il ne faut pas affoler la population.
Oui, ça c'est très important, oui. D'ailleurs, tout le monde n'est pas malade. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont de l'énergie et qui ont quand même leur Internet, leur portable, etc. Mais c'est quand même une mise en garde que nous voulons faire et ce n'est pas un affolement pour affoler les gens que nous diffusons ce livre aujourd'hui.
Tout à fait.
Je reprends un petit peu parce que j'ai préparé un bon nombre de questions... Christian Borde, pour nos auditeurs, je voudrais savoir comment est-ce que vous savez, vous avez des patients qui viennent vous voir, comment est-ce que vous pouvez détecter qu'ils sont malades? Parce qu'on parle dans votre livre de l'imagerie électrophototonique, photonique. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être à l'origine de ces ondes électromagnétiques. Et vous avez un appareil, vous parlez d'un appareil qui a été fait avec un Russe, pour détecter ce manque ou ces maladies qui peuvent nous toucher, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que pour le moment, c'est très abstrait, ces ondes électromagnétiques. Et comment les déceler et déceler ces maladies? Quel est l'appareil qui vous sert à détecter cette maladie?
Tout à fait. Alors,
ou nos faiblesses,
oui,
en tout cas.
Oui, nos déséquilibres.
Nos déséquilibres,
si vous
voilà.
voulez, les ondes électromagnétiques, il y a des appareils très connus sur le marché. Vous en trouvez dans tous les sites internet un peu spécialisés, des appareils de détection qu'on peut appeler des électrosmogueurs qui vont mesurer le brouillard électromagnétique dans la pièce où vous vivez. On a des mesureurs de champ également, c'est un peu le même principe, sur les très basses fréquences, les moyennes fréquences, les très hautes fréquences, etc. Vous pouvez, aujourd'hui, tout est mesurable. Les personnes qui vont vous dire « Oui, tout ça, c'est pas très clair, foutaise, etc. », dites-leur d'aller lire, il y a à peu près 6000 publications scientifiques depuis les années 60 qui ont été élaborées par des chercheurs de renommée mondiale. Il faut savoir qu'en 20 ans, le niveau d'émission dans l'air, c'est-à-dire le niveau de pollution électromagnétique dans l'air, a augmenté d'à peu près 1 million de fois. Excusez-moi. Donc, si vous voulez, 1 million de fois en 20 ans, c'est vous dire la pollution électromagnétique qu'on subit à l'extérieur. Donc, pour revenir à la notion de mesure sur laquelle vous m'interrogiez, oui, cette caméra électrophotonique va nous permettre de mesurer, mais je vais vous expliquer sous quel angle. Si un expert ou un scientifique veut connaître le niveau de pollution, à ce moment-là, je vous dis, il ne va pas obligatoirement passer par cette caméra. Ça, c'est plus réservé aux soignants, aux thérapeutes, aux médecins, parce que ça va permettre de jauger, de mesurer le patient. Mais pour mesurer la pollution dans l'air, c'est très simple. Il suffit d'acheter un appareil adéquat. Alors, ça peut aller de 100 ou 200 euros pour les petits joujoux pour le particulier, jusqu'à 30, 40 000 euros pour les appareils professionnels dont nous nous servons dans le cadre, par exemple, du CRIREM en France, excusez-moi, qui est le centre de recherche indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Donc, si vous voulez, il y a une frange d'appareils énorme avec une variété incroyable parce que, justement, selon qu'on est professionnel et qu'on veut faire un rapport d'expertise auprès du tribunal ou que c'est juste pour savoir un peu la pollution, on a tout ce qu'il faut sur le marché. Par contre, ces caméras électrophotoniques, elles, ont un autre intérêt, c'est qu'elles vont mesurer le patient dans un état X, à un moment, à un instant T, pour déterminer si son homéostasie, là je suis obligé d'employer ce mot, son homéostasie, c'est-à-dire sa capacité de toujours être dans un parfait équilibre de santé, c'est-à-dire un état optimal, on va dire ça, si cette homéostasie est correcte ou pas, ou est-ce que cette homéostasie est défaillante. On va voir également, pendant ces mesures, si le patient est imprégné de charges électriques et électrostatiques. Vous savez, par exemple, tout le monde connaît ça, vous descendez d'une voiture, vous touchez la portière et vous prenez l'électricité. Tout le monde a connu ça dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de charges électrostatiques dans le corps. Eh bien, cet appareil va nous montrer, par de l'imagerie, c'est comme si vous alliez chez le radiologue, il va nous montrer par une imagerie si la personne a accumulé trop de charges électrostatiques dans ses tissus, dans ses cellules, dans son eau extracellulaire. Et donc, nous allons pouvoir nous faire une idée de l'état du patient par rapport à ça. Mais pas que, puisque ça va nous donner un peu un état des lieux général de tous ces systèmes. Et tout ça en une minute de prise d'image.
Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont malades et qui ne trouvent pas de solution doivent avoir recours à ce genre de médecine parallèle, un peu nouvelle quand même, puisque ça n'est pas très connu du grand public, pour retrouver leur niveau d'homéostasie? Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, pour savoir si c'est juste une fatigue passagère ou si en fait ils sont atteints d'ondes électromagnétiques qui perturberaient leur organisme. Alors, dans ce cas, il faudrait modifier le terrain qui est autour d'eux ou trouver des solutions pour diminuer ces ondes électromagnétiques qui sont autour d'eux. Parce que dans votre livre, on explique comment réduire ces ondes. C'est pour ça que le livre est plein d'optimisme, hein, chers auditeurs.
Tout à fait. Alors, vous dire qu'il faudrait faire en premier cette investigation par la caméra, pas obligatoirement. En premier, s'ils ont une fatigue chronique, des choses anormales, une santé défaillante, etc. On va commencer par tous les examens médicaux traditionnels. Il faut ne pas se substituer à toute la démarche médicale. Moi, j'en suis issu, j'ai fait mes études dans les hôpitaux de Toulouse, Purpan, Rangueil. Tous mes profs étaient des médecins ou des chirurgiens. Et donc, je connais cette rigueur qui est derrière. Donc, on va commencer par investiguer côté médical.
Le côté classique, on reste très classique.
Voilà. Mais, Mais ce que nous voyons en patientèle au quotidien, ce sont des gens qui tournent pendant des années ce qu'on pourrait appeler sous forme d'une errance médicale et qui ne trouvent pas de solution. Et je dirais que c'est à ce moment-là que nous, une fois que la médecine a fait ses bilans dans tous les sens, les plus sophistiqués ou plus simples, n'ayant rien trouvé, les personnes vont se tourner vers des médecines complémentaires. Il ne faut pas, je crois, employer le mot « alternatif ». Moi, ma vision de la santé, c'est médecine allopathique traditionnelle plus médecine complémentaire égale médecine intégrative. Et donc, nous sommes le lien entre la médecine classique, le patient et la santé. Et nous sommes à l'interface, on est complémentaires. Moi, je ne me suis jamais substitué au médecin traitant de mes patients, je m'en garderai bien parce que c'est leur affaire, c'est leur médecin qui s'occupe de leur santé ou de leur maladie. Et nous, nous sommes plutôt spécialisés dans comment retrouver la santé la plus parfaite possible. Le but de cet appareil, ce n'est pas obligatoirement de diagnostiquer un problème. C'est de montrer au patient le chemin qui le sépare de la santé optimale. À partir de là, nous faisons ce bilan qui est très court et qui nous permet d'avoir énormément d'informations. Et de là, nous allons nous tourner vers une véritable prévention. Et je crois que c'est le maître mot.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, vous pouvez être complémentaire. Quand le patient a vu son médecin et fait tous les examens et que finalement, il n'y a pas vraiment de solution, il ne faut pas avoir honte de dire « cherchez un peu ailleurs ». Et c'est cette médecine, comment dire, alternative, pourrait être un complément. Et ça les deux réunis feraient que les patients pourraient retrouver espoir. Finalement,
tout à fait.
Les deux médecines seraient complémentaires.
Tout à fait.
Donc il ne faut pas avoir peur, puisque de toute façon, la médecine va de progrès en progrès.
Sure.
Et que souvent, on trouve que les choses sont dangereuses, etc. Mais en réalité, la médecine ne fait que des progrès. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ailleurs, de se renseigner. Et d'ailleurs, en cherchant, en se penchant sur sa santé et sur les médecines alternative, c'est une voie de guérison aussi. Ça veut dire qu'on veut prendre sa santé en main. Là, je fais une petite phrase de philosophie, je dirais, mais déjà en cherchant davantage, en se disant « il y a autre chose, il y a un complément à ce que je fais habituellement », c'est une voie pour guérir.
Absolument. Et donc, si vous voulez, ce que je veux passer comme message, c'est que cette médecine complémentaire donc, qui vient se greffer à la médecine traditionnelle va permettre de réaliser des grands pas en avant. Excusez-moi. Si vous voulez, l'intérêt d'investiguer avec ces systèmes un peu high-tech, comme on va les appeler, ce sont des techniques rapides, non invasives, puisqu'il n'y a aucun risque pour le patient, absolument aucun, il n'y a aucune contre-indication connue.
Ça, il faut le retenir, technique non invasive, aucune contre-indication.
Absolument, ça prend une minute, on met juste les doigts dans une machine et puis c'est fini. Voilà.
C'est la machine du professeur Korotkov.
Korotkov, oui.
Korotkov, voilà. Qui est un professeur russe, et je précise, après avoir lu le livre et après avoir parlé avec Christian Borde, que cette machine est en utilisation dans à peu près 80 pays dans le monde. Donc, si nous ne l'avons pas encore beaucoup en France, il y a 80 pays au monde qui l'utilisent et en Russie, elle est extrêmement utilisée.
Bien sûr, en Russie, Biélorussie, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique des médecins qui l'utilisent.
Du quotidien.
L'université, comme ils utiliseraient un électrocardiogramme ou un tensiomètre. Hein, donc
voilà,
c'est banalisé.
C'est banalisé pour eux.
Nous, si vous voulez, en Europe et aux États-Unis, on n'a pas voulu que ce soit classifié exclusif médical. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de soignants. Des paramédicaux notamment, beaucoup de paramédicaux, des ostéopathes, des nutritionnistes, des chirurgiens, chirurgiens-dentistes, etc. également, qui l'utilisent en cabinet au quotidien. Et donc l'intérêt de ça, c'est vraiment de démocratiser. Nous savons par justement le centre qui est aux États-Unis, puisque la société est américaine au départ, nous savons qu'il y a plus de 6000 systèmes de caméras comme ça en circulation dans le monde. Et moi, personnellement, à mon petit niveau, j'ai formé depuis 20 ans plus de 1200 personnes en Europe à cela.
Ça fait 7200 alors pour
Incluant les 6000.
D'accord.
Donc, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans mon public d'étudiants ou de stagiaires, j'ai des médecins, des chirurgiens, je vous ai dit, des ingénieurs, des chercheurs du CNRS, des paramédicaux, des naturopathes, des ostéopathes, et j'en passe, je ne vais pas lister toutes les professions. Donc, en somme, on s'aperçoit que chacun va faire, avec ce petit appareil, qui est tout petit, qui est en somme un capteur relié à un serveur, va faire son chemin de recherche en fonction des besoins qu'il a vis-à-vis des patients.
Je vous interromps pour vous demander depuis combien de temps vous utilisez cette machine. Je crois que ça fait à peu près une vingtaine d'années.
23 ans.
Ça fait 23 ans. Et comment vous avez rencontré ce professeur Korotkov?
Oui.
Parce que c'est quand même un Russe et un Français, un Russe qui ne parle pas français et un Français qui ne parle pas russe. Comment avez-vous pu relier vos connaissances et sympathiser, puisque ça fait 20 ans que vous travaillez ensemble, 23 ans? Alors comment avez-vous rencontré ce professeur? Comment avez-vous connu cette machine? Et comment avez-vous été séduit finalement par l'utilité de cette machine?
Je vais vous répondre par un heureux hasard. Un patient à moi de Bordeaux, qui avait fait beaucoup de routes pour venir me voir, arrivait avec un problème très complexe qui était une nécrose de hanche très avancée. Et moi, bien sûr, je me sentais quelque peu impuissant. Je lui ai donné quelques conseils de nutrithérapie, de phytothérapie, de rééducation fonctionnelle pour retrouver un semblant de mobilité, mais il souffrait énormément et je savais bien que je ne pouvais pas grand-chose pour lui. Et en sortant de ma consultation, il m'a donné un petit dépliant, un flyer, qui parlait d'un congrès international qui se déroulait en Belgique avec un professeur russe. Et comme moi, je pratiquais déjà cette technologie avec une espèce de prototype que m'avait fabriqué un ami ingénieur, un ingénieur physicien, je m'aperçois qu'un ingénieur physicien russe, un prof d'université, puisque Korotkov enseignait à l'époque à Polytechnique, donc ce n'est pas n'importe qui, professeur à Polytechnique Saint-Pétersbourg, ce n'est pas des débutants ni des novices. Je m'aperçois qu'un monsieur là-bas de l'autre côté de l'Europe avait numérisé ce genre d'imagerie, alors que moi je le faisais traditionnellement avec du papier photographique, révélateur, fixateur, comme le font tous les photographes. Donc je suis parti illico presto en direction de ce congrès international. J'ai pris contact immédiat avec le professeur Korotkov et bien sûr nous nous sommes très vite rapprochés de par nos pratiques communes et surtout par une autre passion qui nous relie énormément, c'est la passion pour l'alpinisme et les hauts sommets. Donc nous avons couru un peu la planète à la recherche de sommets prestigieux. Voilà.
D'accord, donc deux points communs, un alpiniste et un chercheur voulant aider les hommes à se porter mieux.
Voilà.
Dans votre livre, et j'aurais voulu en parler un petit peu plus tôt, vous parlez du brouillard électromagnétique, le smog.
L'électrosmog, oui.
L'électrosmog. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je crois que les gens n'en ont pas conscience du tout.
Alors, si vous voulez, c'est très simple. Vous avez dans l'atmosphère une charge électromagnétique qu'on ne sent pas heureusement, sauf, bien évidemment, vous l'avez compris, les électrosensibles, qui eux ne tolèrent même pas à 0,1 volt par mètre, ils sont déjà en alerte.
Alors attention, les électrosensibles, je le précise à nos auditeurs, ce sont les personnes qui ne supportent pas la présence d'un portable ou qui ne peuvent pas supporter la présence d'un four à micro-ondes parce que ça les rend malades, ça leur déclenche des crises épouvantables. Et donc, quand il y a des réunions, ils demandent à tout le monde de mettre leur portable dehors. Enfin, ce sont des gens qui sont malheureusement déjà très handicapés. Et je crois que nous pouvons dire qu'il y a déjà 10% de la population qui font partie de ces malheureux.
C'est approximativement le chiffre qu'ont décrété les experts internationaux lors de colloques ou de congrès. Quand ils nous parlent de l'électrosensibilité, ils disent qu'environ 10 à 11% des humains aujourd'hui à travers la planète seraient touchés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, leur couleur de peau, leur continent, puisqu'il y a des ondes absolument partout. Moi qui vais en Himalaya depuis 30 ans maintenant, 32 ans même, je vais dans des contrées ultra reculées. J'étais il y a 2 ans dans le secteur des Annapurna faire une ascension et jusqu'à 4500 mètres, j'avais le Wi-Fi dans les lodges. C'est-à-dire, je pouvais prendre... Voilà. L'électrosmog est partout. Bon. Alors, pour reparler de cet électrosmog, si vous voulez, on va appeler ça un brouillard électromagnétique. Et ici, en France, le gouvernement a toléré jusqu'à un niveau très élevé. C'est-à-dire, je vais donner juste 3 chiffres.
Par rapport aux autres pays européens,
oui,
nous
oui,
avons
oui,
un niveau de tolérance supérieur à celui des autres pays.
Extrêmement élevé et même dangereusement élevé, alors que des pays comme justement la Russie ou le Japon ont des normes très strictes. On va donner 3 chiffres. Des chiffres de précaution qui sont que les experts internationaux les plus reconnus et surtout ceux qui sont restés indépendants du lobby, si vous voulez, disent qu'il ne faudrait pas dépasser 0,2 volts par mètre dans des locaux intérieurs style chambre à coucher, salon, cuisine. cuisine, etc. et qu'il ne faudrait pas dépasser 0,6 volts par mètre en extérieur, jardin, terrasse, etc. Eh bien, vous le croirez ou pas, en France, on a toléré toutes fréquences confondues jusqu'à 61 volts par mètre, c'est-à-dire entre 100 et 200 fois la norme tolérable. Donc, je ne vous fais pas de dessin.
Ce chiffre est assez important et un peu triste. Nous allons quand même en profiter maintenant pour écouter un petit peu de musique apaisante, puisqu'elle fait du bien. Et nous vous expliquerons un petit peu après qu'est-ce que c'est que cette musique que nous allons écouter.
Parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, nous venons d'entendre des bols tibétains qui aident à rééquilibrer l'homéostasie, ou on pourrait dire à rééquilibrer notre organisme. Je repasse la parole à Christian Borde qui va vous expliquer un petit peu les bols tibétains, la musique donnée par les bols tibétains. Ça peut paraître surprenant au milieu de cette émission, mais pas tant que ça. Nous voulons en même temps, le livre n'est pas un roman, vous l'avez bien compris, nous voulons en même temps vous faire prendre conscience qu'il y a énormément de choses dans ce livre, des informations, mais aussi des informations importantes sur les dangers quand même produits par ces ondes électromagnétiques, mais en même temps des tas de solutions qui sont proposées. Donc là, nous venons d'avoir notre intermède musical. Et je repasse la parole à Christian Borde qui vous parle de l'intérêt des bols tibétains que certainement beaucoup d'entre vous connaissent.
Je vous remercie. Alors, pour m'être intéressé à la philosophie bouddhiste il y a à peu près 35 ans et avoir passé beaucoup de cérémonies dans les monastères bouddhistes, ce qu'on appelle les pujas, je me suis rendu compte très vite que ces sons de bols tibétains avaient un effet très apaisant. Mettaient les personnes dans un état de disponibilité à méditer, à laisser aller l'esprit tranquillement, au contraire de ce qui nous anime tous les jours, c'est-à-dire l'agitation. Donc ça, je l'ai compris très vite. Ensuite, j'ai eu la chance de croiser pendant une vingtaine d'années, un peu plus, le chemin d'un ingénieur physicien, donc Jean Mars, qui est décédé il y a quelques années, et qui était un des responsables du commissariat d'énergie atomique à Paris-Saclay, et qui, lui, travaillait énormément avec le son des bols tibétains pour apaiser les personnes qui lui demandaient de l'aide. Parce qu'à la fin de sa vie, il est venu en aide à des gens, comme ça, bénévolement, pour les aider à retrouver une santé meilleure. Et donc, m'intéressant au son des bols, je me suis cultivé, on va dire, de manière un peu plus scientifique, à base de documents, de recherches scientifiques sur le sujet. Il y a de magnifiques documents que j'ai même mis à disposition sur mon site. Et je préconiserai aux personnes, soit qui sont intéressées par ça, soit au contraire aux personnes qui pensent que ceci est un peu superflu de parler de ces sons, le livre, l'ouvrage d'un médecin très connu aux États-Unis qui est le docteur Mitchell, avec deux L à la fin, donc Mitchell L. Gaynor, G-A-Y-N-O-R, qui est un médecin, hein, tout simplement, et qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'intitule « Son » au pluriel de guérison. Et dessous, le sous-titre, c'est « Un médecin révèle le pouvoir thérapeutique du son, de la voix et de la musique ». Et ceci est aux éditions de L'Aigle. C'est un livre facile à trouver et qui, vous le verrez, est vraiment très intéressant et qui donne toutes les bases scientifiques aux bienfaits de ces bols.
Écoutez, je vais faire un parallèle tout simple. Les mamans qui chantent à leurs enfants dans le monde entier, bien finalement sûr, sans le savoir. Et puis, je vais faire un parallèle aussi avec un autre médecin qui est le docteur Tomatis, que j'ai eu la chance d'étudier, et qui dit qu'en écoutant Mozart ou du chant grégorien, on peut soigner énormément de choses. Donc, finalement, vous vous rejoignez. Les mamans, le docteur Tomatis, qui est quand même maintenant très connu, et puis cet approfondissement des bols tibétains, et donc de ce docteur américain, docteur Mitchell
Elgenor,
voilà, aux éditions de L'Aigle, qui me paraît aussi un livre intéressant.
Excellent ouvrage, et justement, lui travaille énormément en parallèle de la cancérologie, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a démontré scientifiquement que grâce aux sons répétés, bien sûr, et ce n'est pas des one-shots, c'est des sons répétés de bols tibétains quotidiens, on pouvait raccourcir les délais d'hospitalisation et potentialiser les traitements en chimio durant les passages à l'hôpital des patients. Voilà. Ça a été vérifié scientifiquement. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que scientifique au départ, c'est de valider tout par ou des études ou des preuves. Parce qu'il y a le ressenti, certes. Bien sûr, on se sent mieux après avoir écouté des sons de bol. Mais pourquoi ça marche si bien? Il faut essayer de comprendre. Et là, nous avons des experts, des médecins, des scientifiques qui ont été gratter l'information et qui ont été la prouver. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu.
Voilà. C'est très intéressant. Je vais continuer mon petit questionnaire parce qu'il y a tant de choses à vous demander en lisant ce livre, Les ondes électromagnétiques, Christian Bord. J'ai vu dans votre livre que vous parliez souvent de la Suède, qui a l'air un pays extrêmement en avance sur les recherches d'ondes électromagnétiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que finalement, dans la presse quotidienne, on ne parle jamais de la Suède et des ondes électromagnétiques, mais vous, vous en parlez parce que visiblement, vous avez creusé le sujet.
Oui, puisque déjà en 2002, je me souviens, j'étais abonné à Science et Avenir, qui à l'époque était une revue vraiment qui creusait les sujets un peu hors normes. Et il s'était penché sur les problématiques électromagnétiques, donc, et il s'était aperçu que la Suède était le pays le plus avant-gardiste à ce niveau-là. Tous les problèmes relatifs à l'électrosensibilité et aux effets délétères induits par les ondes étaient pris en compte au niveau professionnel et ces troubles-là étaient classés dans le domaine professionnel comme maladie professionnelle. C'était les seuls en Europe et disons dans le monde proche, après les pays à l'autre bout du monde, je ne sais pas, mais disons au nord de l'Europe, on savait que c'était les seuls qui avaient mis ça en avant de manière complètement avérée et de manière officialisée. Pour exemple, ils avaient mesuré tous les modèles de voitures et ils avaient fait une liste de voitures en disant « voilà, celle-là est très toxique, celle-là un peu moins, celle-là un peu moins, celle-là un peu moins ». Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai sorti un très bon ami à moi, Patrick, d'affaires, qui faisait malaise sur malaise jusqu'à un jour pratiquement trépassé. Il a eu le cœur qui s'est comme arrêté. Heureusement, on était avec un médecin de Toulouse, justement, très, très calé, et on a pu le ranimer. Et ceci lui venait du fait que dans sa voiture dont je tairai la marque, il y avait un faisceau électrique qui transitait entre le moteur et l'arrière de la voiture et qui rayonnait sur lui. Mais comme il passait à peu près 90 000 km par an dans sa voiture en tant que représentant,
il se tuait dans sa voiture.
Il était exposé au quotidien.
Il se tuait dans sa voiture.
Voilà. Et quand il a contacté la marque et qu'il leur a expliqué le cas, la marque étant au courant, a blindé tout le réseau électrique gratuitement. Ils l'ont fait pour à peu près 3000 euros de travaux gratuitement pour que justement ce monsieur ne porte pas plainte. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on nous cache. Voilà.
Oui.
La marque savait, puisqu'elle avait été citée en premier lieu dans ce Science et Avenir, et donc elle avait été pointée du doigt par de nombreux utilisateurs. Et quand ce monsieur a révélé son problème médical, de suite, la marque a pris en compte la réfection complète de son circuit électrique. Voilà.
Donc vous voyez, chers auditeurs, que parfois il faut chercher d'autres pistes les raisons de votre maladie ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et l'histoire de cette voiture, c'est incroyable, en fait.
Qu'il crut.
Il ne faut pas l'oublier. Voilà, il faut le retenir. L'incidence des ondes électromagnétiques ou des ondes électriques peuvent être très dangereuses. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les solutions que vous proposez. Avant dans votre livre, vous proposez de nombreuses solutions pour le quotidien. Celle qui m'a paru la plus simple et la plus grand public, je dirais, c'est la mise à la terre. Ça veut dire quoi exactement? On a entendu parler des prises de terre, mais vous, mère de famille, père de famille, les grands-pères et les grands-mères qui nous écoutaient ou les jeunes qui nous écoutaient, si je vous dis de mettre la mise à la terre chez vous pour limiter les ondes électromagnétiques parce que vous êtes entouré de trop d'objets porteurs d'ondes électromagnétiques, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je pose la question à Christian Borde, que faut-il faire exactement pour limiter ces ondes électromagnétiques dans notre maison en commençant par la mise à la terre?
Bien, alors ceci est un point très important, mais en amont de vous parler de ça, j'aimerais préciser qu'il est très important aussi de faire mesurer au moins une fois sa terre à la maison. Alors la terre, c'est le fil de terre qui passe et qui arrive dans toutes les prises. Vous savez, c'est la petite cosse en cuivre qui dépasse de la prise, là.
Oui.
On appelle ça le mâle, hein, donc.
Oui,
voilà,
oui.
Et la prise de terre vient se connecter là-dessus. Et donc, cette terre devrait être idéalement, d'après ce qu'on appelle la bobologie en Allemagne, c'est la spécialité dans ces mesures-là, d'après la bobologie allemande, ça devrait être entre 2 et 10, maximum 12 ohms.
Mais j'habite dans un immeuble en plein Toulouse, comment je fais là?
Alors, deux solutions. Soit vous vous procurez l'appareil de mesure qui permet tout simplement, en branchant la prise, de savoir combien vous avez. C'est très simple, il y a des mesureurs, je vous dirai où en trouver, il y a plein de sites qui en font. Et ensuite, il y a le fait d'appeler son électricien et de dire, voilà, j'aimerais que vous veniez vérifier ma terre. Et lui, il a absolument, assurément, l'outil. Il va venir, il va le brancher, ça lui prend 3 secondes et il lit sur l'écran lumineux de son appareil combien vous avez de ohms. Ohms, ça s'écrit O-H-M-S si c'est au pluriel. Voilà. Donc ça, c'est très important, la qualité de la terre. Et une fois qu'on a cette qualité de la terre atteinte, c'est-à-dire entre 2 et 10, 12 ohms, l'idéal, c'est de brancher un système de mise à la terre. Alors, ça peut être ce qu'on appelle un tapis d'ordinateur. On va brancher un fil qui va être relié à un petit tapis dans un matériau très dense, plutôt en général de couleur noire, qu'on va mettre sous les fesses, c'est-à-dire, quand je dis sous les fesses, on reste habillé, bien sûr, vous en doutez, et on le met sur le siège de travail ou sous l'ordinateur. Ensuite, on va imaginez ça comme sur matelas. On va pouvoir mettre ça sur le matelas du lit, donc sous notre drap. Et on va dormir également à la terre. C'est les deux moyens de se mettre à la terre de manière un peu technologique, avec des moyens. Et sinon, la mise à la terre de base, c'est marcher les pieds nus dans l'herbe. Mais on ne peut pas faire ça toute la journée. Et en gros, pas tout l'hiver, en tout cas.
Oui, ça, c'est un peu compliqué. Donc, chers amis auditeurs, j'espère que vous avez compris comment faire cette mise à la terre qui me paraît essentielle. Je trouve qu'on devrait proposer au syndic d'immeubles de mesurer tous les immeubles, le niveau de mise à la terre pour tous les appartements. Finalement, ça serait quelque chose qui devrait rentrer, comme on mesure l'amiante, comme on mesure des tas de choses, le niveau de pollution, etc. On devrait mesurer notre niveau de mise à la terre dans les nouvelles constructions, ça devrait rentrer dans les nouvelles normes. Il faut en parler aux architectes. Voilà, ça devrait être l'avenir. Comme il ne nous reste pas énormément de temps, je voudrais vous demander, Christian Borde, des solutions concrètes pour lutter contre ces ondes électromagnétiques que provoquent l'ordinateur, le four à micro-ondes, le grille-pain, l'appareil pour entendre les cris du bébé, la plaque vitrocérame, tous ces appareils qui sont quand même pas terribles pour nous, puisque vous, dans votre livre, vous préconisez la vieille gazinière, ce qui serait la moins émetteuse de mauvaises ondes. Qu'est-ce que vous nous proposez dans notre quotidien que nous pouvons faire demain, après avoir entendu l'émission, ou ce soir, après avoir entendu
Alors,
l'émission.
On va essayer de trouver des moyens relativement faciles et raisonnables, sans pour autant se faire traiter de Amish par notre président.
Voilà.
Alors, moi, je vais vous donner un peu les 10 commandements, on va appeler ça comme ça, de base, et qui coûtent 0 euro à l'utilisateur. La première précaution d'usage, selon moi, est de couper toutes les box et les Wi-Fi durant la nuit.
Couper les box et la Wi-Fi la nuit.
Voilà, je vous ai dit que ça émettait du micro-ondes. Et ces micro-ondes créent une agitation au niveau de l'eau cellulaire et de nos tissus à des niveaux très, très, très élevés. Ça, c'est la première priorité.
Ça, il faut bien l'entendre, parce que notre corps étant composé à 70 ou 80% d'eau, cela a énormément de répercussions sur notre organisme. Donc, c'est une chose très simple, tout simplement l'arrêter. Au moins de 23h jusqu'à 7h le matin, voilà. Parce qu'il faut d'abord s'arrêter la nuit de jouer avec nos outils informatiques.
Ensuite, un point très important, ce sont les Bluetooth. Les Bluetooth, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet, pareil, la transmission sans fil à de très hautes vitesses. On en a dans les voitures et partout. Il faut savoir que c'est environ 100 fois plus toxique que le Wi-Fi. Donc attention aux personnes qui passent trop de temps avec des Bluetooth.
Vous entendez 100 fois plus toxique le Bluetooth que le Wi-Fi. C'est un chiffre qui ne doit pas rester. Ce n'est pas 2 fois plus sensible, 3 fois, c'est 100 fois plus sensible le Bluetooth. Donc si on peut le laisser de côté, ça serait mieux.
Ensuite, on l'a dit, je le mets en troisième position, bien sûr, vérifier les terres, mais ça en a déjà parlé.
Oui.
Éviter les sommiers métalliques. Parce que tous ces ressorts métalliques vont servir de relais aux ondes. Ça va être ce qu'on appelle des ré-émetteurs passifs. Et donc, vous allez avoir comme un champ électromagnétique qui va s'amplifier sous tout votre corps. Donc, ça à éviter. Ensuite, éviter la présence de lampes et de radio-réveil à moins de 1,50 m de votre tête. Quand vous êtes dans le lit, bien sûr.
Le radio-réveil serait donc un objet pas si bon que ça.
Moins polluant que les Wi-Fi, rien à voir.
Oui,
mais
bien sûr.
Disons, le rayonnement électrique et magnétique du radio-réveil peut perturber les nuits. Et la nuit, il est important de ne pas être troublé par quelque système que ce soit. Bien sûr, nous l'avons évoqué, mettre son ordinateur également à la terre, parce qu'il faut savoir que les nouveaux portables n'ont pas la présence d'une prise terre. Donc, pensez à le mettre à la terre. Ne pas se réveiller avec son téléphone portable sous l'oreiller. Il y a des réveils, des radio-réveils. Et vous éloignez le téléphone portable de votre corps. Idéalement, c'est de le laisser dans une autre pièce et couper la nuit au même titre que les Wi-Fi, parce que ça rayonne, ça cherche des antennes.
Oui, ça, il faut bien le comprendre. En réalité, le portable cherche l'antenne. Si vous ne l'arrêtez pas, il cherche les antennes.
En permanence.
Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas le laisser dans la chambre. Il faudrait l'arrêter et le mettre dans une autre pièce.
Tout à fait. Ensuite, ne pas faire des discussions prolongées, le téléphone contre la tête, soit mettre le haut-parleur, soit mettre des oreillettes, mais pas les oreillettes qui sont livrées avec. Je vais vous dire pourquoi, parce que notre corps sert d'antenne, puisqu'il y a une continuité électromagnétique le long du fil. Il faut des oreillettes, les Américains ont conçu quelque chose de très très bien qui s'appelle les AIRCOM, R comme R, A-I-R, COM comme communication. Et ça, ça évite tout lien entre le corps de l'utilisateur et le téléphone.
Oui, en fait, en lisant votre livre, j'ai compris que notre corps servait d'intermédiaire.
Oui.
Il n'est pas neutre.
Tout à fait.
C'est une éponge, en fait. Notre corps est une éponge à avaler toutes ces
ondes.
Tout à fait.
Oui. Tout à fait. Ensuite, point très important, je parle surtout pour les messieurs. Évitez de mettre un téléphone portable dans la poche de la chemise au niveau du cœur, parce que ça va pouvoir entraîner des troubles du rythme cardiaque et tout un tas d'autres problèmes. Ça a été vérifié par des cardiologues. Et au final, attention à vous, mesdames, quand vous portez un bébé, aux femmes enceintes, parce qu'il faut vraiment et impérativement éviter la proximité d'émetteurs comme les téléphones, les antennes, etc. Il est prouvé par les meilleurs scientifiques au monde d'aujourd'hui que les ondes en premier ont comme cible les cerveaux des petits-enfants, des nouveau-nés, des très jeunes, parce qu'ils sont encore très malléables, non encore suffisamment formés au niveau osseux.
Important.
Et les glandes de mammaires de vous, mesdames. C'est-à-dire que les deux cibles principales, c'est cerveau des tout-petits et sein des femmes. Donc, ce n'est pas un spectacle, disons, très réjouissant, mais c'est la conclusion des études scientifiques. Donc, je le répète, des meilleurs spécialistes mondiaux, pas seulement européens, mais mondiaux. Puisque quand il y a des colloques, on a environ une quarantaine d'experts qui sont là et qui viennent de tous les pays.
Je vais... malheureusement être obligé de conclure parce que nous aurions beaucoup de choses encore à dire, mais le temps va nous manquer. Donc faites très attention, à travers la lecture du livre, j'ai vu que le portable était non recommandé aux enfants, avant 15 ans. Et donc je retiens que ce portable est très dangereux pour les mamans, pour les enfants. Donc ne donnez pas de portable à vos enfants. Ne les mettez pas non plus avec des tablettes et des jeux. Je voudrais conclure en disant où se trouve Christian Borde. Vous le trouvez dans les Hautes-Pyrénées ou en Espagne. Vous pouvez voir son site internet. Son livre « Ondes électromagnétiques » écrit en collaboration avec Nelly Rousselin aux éditions d'Angle qui sont installées à Esquelquens se trouve dans toutes les bonnes librairies. En allant chercher sur son site sur internet, vous verrez la diversité de cet auteur que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il est en même temps ostéopathe, il a énormément de casquettes, il est conférencier, il va dans le monde entier faire des conférences, il est aussi géobiologue. La collaboration avec Nelly Rousselin n'est pas une collaboration anodine. Cette dame était avant informaticienne. Elle s'est convertie en 2016 à la géobiologie et à la recherche sur les ondes électromagnétiques parce qu'en réalité, c'est un sujet qui nous préoccupe tous et qui est un sujet pour demain dont il faut se préoccuper. Voilà, je vous remercie Christian Borde d'être venu à Radio Présence et on vous attend à Radio Présence pour votre prochain livre.
C'est très gentil, je vous remercie de votre invitation et juste pour les auditeurs, je voudrais juste préciser un site où chacun pourra trouver des études scientifiques d'excellent niveau sur tous les sujets, que ce soit les humains, les animaux, la 5G, la technologie Linky et tout ce qui s'ensuit. Le site c'est www.électrosensible.solutions. Au pluriel. Donc je répète, www.électrosensible.solutions.au pluriel. Il n'y a pas de .fr ou de .com, c'est le nom du site.
Voilà,
et là, vous avez des études scientifiques très très larges et chacun pourra trouver son bonheur en fonction de ce qu'il recherche et vous verrez que c'est très sérieux, encore plus sérieux qu'on ne peut l'imaginer.
Voilà. Creusez le sujet, chers auditeurs, ça vaut la peine.
Je vous remercie de votre invitation et au plaisir. Prenez soin de vous.
Au revoir. Merci, Christian Borde.